Lorsqu'il s'est agi de constituer mon équipe économique, j'ai décidé de favoriser l'expérience au détriment des jeunes talents. Les circonstances, me semblait-il, l'exigeaient. Le bilan du marché de l'emploi en octobre, publié 3 jours après l'élection, était mauvais. 240 000 pertes d'emplois. Une estimation ultérieure révélerait que le chiffre se montait en réalité à 481 000. Malgré le vote du TARP, les mesures d'urgence que continuaient de prendre le Trésor et la Fed, les marchés financiers demeuraient paralysés. Les banques étaient encore au bord de l'effondrement et les saisies immobilières ne montraient nul signe de ralentissement. J'aimais beaucoup tous les jeunes talentueux qui m'avaient conseillé durant la campagne et me sentais des affinités avec les économistes et les militants de gauche qui voyaient la crise actuelle comme le résultat d'un système financier hypertrophié et incontrôlable, ayant terriblement besoin d'être réformé. Mais avec l'économie mondiale en chute libre, ma mission première n'était pas de refondre l'ordre économique mondial. Il s'agissait d'empêcher un plus ample désastre. Pour cela, j'avais besoin de gens ayant déjà géré des crises, capables d'apaiser les marchés pris de panique. Des gens qui, par définition, pouvaient être ternis par les péchés du passé. Pour le secrétaire au Trésor, j'avais en définitive le choix entre 2 candidats. Larry Summers, qui avait occupé ce poste sous Bill Clinton, et Tim Geithner, l'ancien adjoint de Larry, alors à la tête de la Banque fédérale de réserve de New York. Larry était le choix le plus évident. Diplômé en économie et champion en rhétorique au MIT, un des plus jeunes professeurs titulaires à Harvard, et plus récemment président de l'université, il avait déjà officié comme économiste en chef de la Banque mondiale, sous-secrétaire aux affaires internationales et secrétaire adjoint au Trésor, avant de reprendre le flambeau de son prédécesseur et mentor, Bob Rubin. Au milieu des années 1990, Larry avait contribué à mettre en place la riposte internationale face à une série de crises financières majeures impliquant le Mexique, l'Asie et la Russie, les crises les plus comparables à celles dont j'héritais, et même ses plus farouches détracteurs lui reconnaissaient une intelligence supérieure. Ainsi que Tim l'avait fort justement fait remarquer, Larry était capable d'écouter vos arguments, de les reformuler mieux que vous n'auriez su le faire, puis de vous prouver pourquoi vous aviez tort. Il avait également la réputation, en partie méritée seulement, d'être arrogant et de ne pas respecter le politiquement correct. En tant que président de Harvard, il s'était publiquement disputé avec Cornel West, l'éminent professeur d'études africaines américaines, et avait été par la suite obligé de démissionner après avoir affirmé, entre autres choses, que les différences intrinsèques en termes de capacités intellectuelles de haut niveau était l'une des raisons de la sous-représentation des femmes dans les départements de maths, de sciences et d'ingénierie des meilleures universités. En apprenant à le connaître, j'ai fini par être persuadé que les difficultés de Larry à bien s'entendre avec les autres relevaient moins de la malveillance que de l'inattention. Pour Larry, les qualités telles que le tact et la modération ne faisaient qu'empêtrer l'esprit. Lui-même semblait totalement insensible au fait que les gens puissent se sentir blessés ou manquer de confiance en eux, et il exprimait sa reconnaissance, accompagnée d'un léger étonnement, à quiconque lui donnait du fil à retordre ou émettait une idée qui ne lui était pas venue à l'esprit. Son désintérêt pour les conventions sociales s'étendait à son apparence, souvent débraillée, son ample bedaine parfois visible en raison d'un bouton de chemise manquant, et sa pratique approximative du rasage laissant régulièrement apparaître quelques poils incongrus oubliés sous le nez. Tim était différent. La première fois que je l'ai rencontré, dans un hôtel à New York, quelques semaines avant l'élection, le premier mot qui m'est venu à l'esprit a été « genou ». Il avait mon âge, mais sa carrure frêle, son port modeste et ses traits délicats lui donnaient l'air bien plus jeune. Pendant toute l'heure qu'a duré notre discussion, il est resté d'humeur égale, parlant d'une voix douce et joviale. Nous nous sommes immédiatement bien entendus en raison, entre autres, des similitudes entre nos deux enfances. Son père ayant consacré sa carrière à l'aide aux pays en développement, il avait passé une partie de sa jeunesse à l'étranger, ce qui se traduisait chez lui par une réserve que je reconnaissais en moi. Après avoir obtenu un master en études extrême-orientales et en économie internationale, Tim avait travaillé comme spécialiste de l'Asie pour la boîte de conseil de Henry Kissinger, puis était entré au Trésor au titre d'attaché commercial junior au Japon. C'est Larry Summers qui avait sorti Tim de l'ombre pour faire de lui son assistant personnel, et Tim avait suivi Larry dans son ascension. Il était devenu un agent déterminant, quoique méconnu, dans les actions entreprises pour régler les différentes crises financières des années 1990, et c'est grâce aux vives recommandations de Larry qu'il s'était retrouvé à la tête de la New York Fed. Leur relation témoignait de la générosité de Larry, mais aussi de la confiance paisible et de la rigueur intellectuelle de Tim. Autant de qualités qui avaient amplement été mises à l'épreuve au cours de l'année précédente, Quand Tim avait travaillé non-stop avec Hank Paulson et Ben Bernanke pour contenir l'effondrement de Wall Street. Que ce soit par loyauté vis-à-vis de Larry, parce qu'il était épuisé ou bien en raison d'une culpabilité compréhensible, comme Ram et moi-même, il avait des enfants encore jeunes et une femme qui aspirait à une vie plus calme, Tim a passé une bonne partie de notre premier rendez-vous à tenter de me décourager de l'embaucher comme secrétaire au Trésor. Entretien au terme duquel j'ai été convaincu du contraire. Il faudrait à quiconque, y compris Larry, des mois pour atteindre le niveau de compréhension en temps réel que Tim avait de la crise financière et de ses relations avec les multiples acteurs financiers mondiaux, me suis-je dit. Or, c'était du temps que nous n'avions pas. Plus important, j'avais l'intuition que Tim était fondamentalement intègre, stable de tempérament et capable de résoudre les problèmes, des qualités nullement entravées par son ego ou des considérations politiques, ce qui ferait de lui un atout précieux pour affronter la tâche qui nous attendait. J'ai finalement décidé d'embaucher les deux hommes, Larry pour qu'il m'aide à comprendre ce qu'on pouvait faire et ne pas faire, Tim pour mettre en œuvre et diriger notre action. Pour que cela fonctionne, il fallait que je convainque Larry d'être non pas secrétaire au Trésor, mais plutôt directeur du Conseil économique national, soit le plus haut poste économique à la Maison-Blanche, cependant considéré comme moins prestigieux. La fonction traditionnelle du directeur était de coordonner l'élaboration de la politique économique et d'assumer le rôle d'interface diplomatique entre les différentes agences, ce qui n'était pas nécessairement un des points forts de Larry. Mais tout cela n'avait aucune importance, ai-je dit à Larry. J'avais besoin de lui, son pays avait besoin de lui, et à mes yeux, il serait l'égal de Tim concernant l'élaboration de notre plan économique. Ma gravité a peut-être pesé dans sa réflexion, mais la promesse, sur les conseils de Ram, de faire de lui le prochain président de la Réserve fédérale, a certainement contribué à obtenir son assentiment. J'avais d'autres postes clés à pourvoir. Pour la direction du groupe des conseillers économiques, chargé de fournir au président les meilleures données et analyses possibles sur toutes les questions économiques, j'ai choisi une universitaire au teint frais, Christina Romer, professeure à Berkeley, qui avait effectué un travail magistral sur la Grande Dépression. Peter Orszag, responsable du bureau du budget du Congrès, une agence fédérale sans étiquette politique, a accepté le poste de directeur du bureau de la gestion et du budget. Et Melody Barnes, une avocate afro-américaine sérieuse, ex-conseillère juridique principale du sénateur Ted Kennedy, a été placée à la tête du Conseil de politique intérieure. Jared Bernstein, économiste spécialisé dans les questions du travail, plutôt de gauche, a intégré l'équipe de Joe Biden, de même que le conseiller à lunettes ultra-éloquent Gene Sperling, qui avait été pendant 4 ans directeur du Conseil économique national sous Bill Clinton, et qui acceptait à présent, aux côtés des économistes de ma campagne Austin Goolsbee et Jason Furman, de faire office de joueur polyvalent. Au cours des mois à venir, j'allais passer d'innombrables heures avec ce groupe d'experts et leurs adjoints, à poser des questions, à passer au crible des préconisations, à étudier de près les présentations PowerPoint et les dossiers de synthèse, à formuler une stratégie avant de la soumettre à un examen minutieux. Les débats étaient vifs, les opinions divergentes encouragées, et aucune idée n'était a priori rejetée parce qu'elle émanait d'un jeune membre de l'équipe ou ne collait pas avec tel ou tel présupposé idéologique. Tim et Larry n'en demeuraient pas moins les voix dominantes de notre équipe économique. Les deux hommes adhéraient au credo centriste favorable à l'économie de marché de l'administration Clinton et, compte tenu de la remarquable longévité de la période de prospérité des années 1990, un tel pédigré avait longtemps été considéré comme une source de fierté. Cependant, à mesure que la crise empirait, ces états de service feraient l'objet de critiques de plus en plus virulentes. Bob Rubin voyait déjà sa réputation ternie du fait d'avoir été conseiller principal de Citigroup, une des institutions financières qui avait trempé dans le marché des subprimes et favorisait à présent la contagion. Dès que j'ai annoncé la composition de mon équipe économique, des articles de presse ont fait remarquer que Larry s'était fait le champion de la dérégulation des marchés financiers durant son passage au Trésor, les commentateurs se demandant si, lorsqu'il avait occupé des fonctions au sein de la New York Fed, Tim, ainsi que Paulson et Bernanke, n'avaient pas été trop lents à la détente pour alerter du risque que le marché des subprimes faisait courir au système financier. Certaines de ces critiques étaient pertinentes, d'autres grossièrement injustes. Ce qui était certain, c'est qu'en choisissant Larry et Tim, je m'étais attelé à leur histoire, et que si nous ne parvenions pas à redresser promptement la barre du vaisseau économie, le prix politique à payer pour les avoir choisis serait élevé. À peu près à la période où je finalisais mon équipe économique, j'ai demandé à des membres du staff et à mon détachement du Secret Service d'organiser un rendez-vous clandestin à la caserne des pompiers de l'aéroport national Ronald Reagan. Les lieux étaient déserts quand nous sommes arrivés, les camions de pompiers avaient été retirés pour laisser place à notre cortège de voitures. Je suis entré dans un salon qui avait été réservé avec des rafraîchissements, et j'ai salué l'homme compact aux cheveux argentés et en costume gris déjà assis. « Monsieur le secrétaire, » ai-je dit en lui serrant la main. « Félicitations, monsieur le président, » a répondu Robert Gates, regard d'acier, sourire figé, avant que nous prenions place et passions aux choses sérieuses. On peut affirmer sans risque d'erreur que le secrétaire à la défense du président Bush et moi-même n'évoluions pas dans les mêmes cercles. De fait, au-delà de nos racines communes dans le Kansas, Gates était né et avait grandi à Wichita, il était difficile d'imaginer que deux individus aux trajectoires si différentes se retrouvent finalement au même endroit. Gates était un Eagle Scout, ex-officier du renseignement de l'Air Force, spécialiste de la Russie et recrue de la CIA. Au plus fort de la guerre froide, il avait servi au Conseil de sécurité nationale sous Nixon, Ford et Carter, et à la CIA sous Reagan, avant d'en être nommé directeur sous George H.W. Bush. Il avait été nommé antérieurement à ce poste par Reagan, mais avait dû faire défection lorsqu'avaient émergé des questions sur ce qu'il savait du scandale politico-militaire de l'Irangate. Après l'élection de Bill Clinton, Gates avait quitté Washington et intégré des conseils d'administration avant de devenir président de l'université A&M du Texas, poste qu'il conserverait jusqu'en 2006, quand George W. Bush lui demanderait de remplacer Donald Rumsfeld au Pentagone et de voler au secours d'une stratégie de guerre en Irak qui avait alors tourné au désastre. C'était un républicain, un faucon de la guerre froide, membre de l'establishment de la sécurité nationale, qui s'était illustré dans des interventions à l'étranger contre lesquelles j'avais probablement manifesté quand j'étais à l'université, et désormais secrétaire à la défense d'un président dont j'abhorrais les stratégies belliqueuses. Et pourtant, ce jour-là, je me trouvais à la caserne des pompiers pour demander à Bob Gates d'être mon secrétaire à la défense. Compte tenu des nominations auxquelles j'avais procédé sur le plan économique, mes raisons étaient d'ordre pratique. Avec 180 000 soldats déployés en Irak et en Afghanistan, tout changement de poste important au département de la défense présenterait des risques. En outre, quelles que soient les divergences que Gates et moi pouvions entretenir concernant la décision initiale d'envahir l'Irak, les circonstances nous avaient conduits à avoir des vues similaires quant à la voie à emprunter pour en sortir. Lorsque le président Bush, sur les conseils de Gates, avait ordonné un afflux de soldats en Irak au début de l'année 2007, j'avais été sceptique. Non pas parce que je doutais que des effectifs américains supplémentaires réduiraient la violence sur place, mais parce que cet engagement était présenté sans issue claire. Sous la direction de Gates, néanmoins, l'afflux de soldats déployés sous la houlette du général Petraeus et une alliance négociée avec les tribus sunnites dans la province d'Anbar avait non seulement réduit la violence de manière significative, mais fourni aux Irakiens du temps et de l'espace pour la politique. Avec l'aide d'une diplomatie minutieuse menée par la secrétaire d'État Condoleezza Rice et tout particulièrement l'ambassadeur en Irak Ryan Crocker, l'Irak était en bonne voie pour se doter d'un gouvernement légitime, des élections étant prévues pour la fin du mois de janvier 2009. Au bon milieu de ma transition, l'administration Bush avait même annoncé un accord sur le statut des forces avec le gouvernement al-Maliki, prévoyant un retrait de contingents américains à la fin de l'année 2011. Un calendrier qui, de fait, était le reflet de ce que j'avais proposé durant la campagne. Pendant ce temps, Gates avait insisté publiquement sur la nécessité pour les États-Unis de se concentrer sur l'Afghanistan, un des grands engagements de mon programme de politique étrangère. Des questions tactiques demeuraient concernant le rythme, les ressources et les effectifs. Mais la stratégie fondamentale consistant à réduire les opérations de combat en Irak et à concentrer nos efforts en Afghanistan était désormais fermement établie. Et, du moins pour le moment, personne n'était mieux placé pour mettre à exécution cette stratégie que le secrétaire à la Défense alors en fonction. J'avais également de solides raisons politiques de maintenir Gates à son poste. J'avais en effet promis de mettre fin à la sempiternelle guéguerre politicienne et la présence de Gates dans mon gouvernement montrerait que ce n'étaient pas des promesses en l'air. Le garder dans mon équipe contribuerait aussi à inspirer la confiance au sein de l'armée et des différentes agences formant la communauté du renseignement. À la tête d'un budget militaire supérieur à la totalité de ceux des 37 pays suivants combinés, les directeurs du département de la défense et de la communauté du renseignement avaient de fortes convictions, excellaient dans l'art de mener des querelles intestines et avaient tendance à préserver le statu quo. Cela ne m'intimidait pas. Je savais dans les grandes lignes ce que je voulais et m'attendais à ce que les habitudes acquises au cours d'une carrière où l'on est tenu de respecter la voie hiérarchique saluer et exécuter les ordres du commandant en chef, y compris ceux avec lesquels on est en total désaccord, soit profondément ancré. Pour autant, je comprenais que faire prendre une direction nouvelle à l'appareil de sécurité nationale aux États-Unis n'était facile pour aucun président. Si le président Eisenhower, commandant suprême des forces alliées et architecte du D-Day, s'était parfois senti impuissant face à ce qu'il appelait le complexe militaro-industriel, il était fort probable que faire passer des réformes soit plus difficile pour un président afro-américain fraîchement élu, qui n'avait jamais revêtu l'uniforme, s'était opposé à un engagement auquel beaucoup avaient consacré leur vie, souhaitait restreindre le budget militaire, et avait certainement perdu le vote du Pentagone avec une marge considérable. Pour que les choses soient mises en marche dès à présent, et non pas d'ici un an ou deux, j'avais besoin de quelqu'un comme Gates, qui savait comment fonctionnait la maison et où se trouvaient les pièges. Quelqu'un bénéficiant du respect que, indépendamment de mon titre, il me faudrait à certains égards conquérir. Il y avait une dernière raison pour laquelle je voulais compter Gates dans mon équipe. Il s'agissait de lutter contre mes propres préjugés. L'image de moi qui avait émergé au cours de la campagne, l'idéaliste qui s'opposait instinctivement à l'action militaire, persuadé que tout problème sur la scène internationale pouvait être résolu par un noble dialogue, n'était pas tout à fait juste. Certes, je croyais en la diplomatie, et effectivement, je considérais la guerre comme un ultime recours. Je croyais en la coopération multilatérale pour affronter les problèmes tels que le changement climatique, et je croyais que la promotion soutenue de la démocratie, du développement économique et des droits fondamentaux dans le monde servait nos intérêts à long terme en matière de sécurité nationale. Ceux qui avaient voté pour moi ou avaient travaillé pour ma campagne tendaient à partager ces convictions. Et c'était ces profils qu'on avait le plus de chances de trouver dans mon gouvernement. Cependant, mes convictions en matière de politique étrangère et mon opposition initiale à l'invasion de l'Irak devaient au moins autant à l'école réaliste, une école qui prenait la retenue, assumait les informations imparfaites et les conséquences involontaires, et prenait ses distances avec la croyance dans l'exceptionnalisme américain, entretenant au contraire une certaine humilité quant à notre capacité à refaire le monde à notre image. Je surprenais souvent les gens en citant George H.W. Bush comme président récent dont j'admirais la politique étrangère. Bush, avec James Baker, Colin Powell et Brent Scowcroft, avait adroitement conduit la fin de la guerre froide et la poursuite victorieuse de la guerre du Golfe. Gates avait fait ses armes avec de tels hommes, et dans sa façon de gérer la campagne d'Irak, je percevais suffisamment de convergence dans nos points de vue pour envisager avec confiance une collaboration. Avec sa voix à la table, ainsi que celle de gens comme Jim Jones, général 4 étoiles à la retraite, ancien chef du commandement des forces des États-Unis en Europe, que j'avais choisi comme conseiller à la sécurité nationale, était pour moi la garantie que je disposerais d'un large éventail de perspectives avant de prendre des décisions importantes, et qu'il faudrait que je mette constamment à l'épreuve mes convictions les plus intimes face à des personnes ayant la stature et l'assurance nécessaires pour me dire quand je me trompais. Bien entendu, tout cela dépendrait d'un niveau élémentaire de confiance entre Gates et moi. Lorsque j'avais demandé à un collègue de le sonder pour savoir s'il serait disposé à conserver son poste, Gates avait envoyé une liste de questions. Pour combien de temps envisageais-je de l'engager? Serais-je d'accord pour introduire une certaine flexibilité concernant le retrait des troupes en Irak? Quelle serait mon approche du département de la Défense en termes d'effectifs et de budget? Tandis que nous prenions tous deux place dans la caserne, Gates a reconnu qu'il n'était pas conforme à la coutume, de la part d'un potentiel candidat à une place au gouvernement, de presser ainsi de questions son futur patron ou sa future patronne. Il espérait que je n'avais pas trouvé cela présomptueux de sa part. Je lui ai assuré que cela ne m'avait pas dérangé et que sa franchise et sa clarté d'esprit étaient précisément ce que je recherchais. Nous avons passé en revue sa liste de questions. J'en avais moi aussi quelques-unes. Au bout de 3 quarts d'heure, nous nous sommes serrés la main et chacun est reparti de son côté dans son cortège de voiture. « Alors ?» m'a demandé Axe à mon retour. « Il est d'accord, » ai-je dit. « Il me plaît bien, on verra si moi je lui plais, » ai-je ajouté.